On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
En France, 10 millions de tonnes par an de produits alimentaires sont perdus.
29 kilos par personne et par an de produits alimentaires qui sont perdus au gaspillage chaque année.
Carottes, on peut utiliser donc les fans et en faire un pesto de fans de carottes.
Il y a des gestes simples à adopter qui sont à faire bien avant qu'on se trouve devant la poubelle.
Le ver de poireau, donc on peut soit en faire des petits fagotins quand on cuisine du poisson, soit s'en faire des soupes, puisque ça se mange et au contraire c'est rempli de nutriments.
Ça mérite peut-être qu'on s'y intéresse un peu.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster une émission qu'il serait peut-être bon de rebaptiser aujourd'hui « On ne va rien jeter ». Oui, car à bien y regarder, dans nos vies d'hommes et de femmes modernes, on passe nos vies à jeter du parassis, à laisser nos salades flétrir dans le bac à légumes, à gaspiller des yaourts même pas entamés. Et si on arrêtait, tous autant que nous sommes, de nourrir nos poubelles? En ce dimanche 14 avril, on vous propose des solutions, des initiatives, de bonnes idées et de vraies astuces culinaires, simples et efficaces, à appliquer à la maison. Grâce à nos deux invités, on a choisi deux invités, une cuisinière et un cuisinier, très engagés dans le zéro déchet. Chloé Charles, bonjour.
Bonjour François-Louis.
Ça faisait un moment qu'on voulait vous recevoir sur le plateau dont on va déguster. Chloé, vous êtes une cuisinière très remarquée sur la scène parisienne. Vous vous êtes formée quand même chez La Serre, chez Pascal Barbeau à l'Astrans. Vous avez été la seconde de cuisine de Bertrand Grébeau chez Septime. Et le zéro déchet est devenu pour vous une philosophie, mieux une hygiène de vie que vous appliquez dans vos différentes missions de cuisinière indépendante. Et vous êtes par ailleurs consultante en réduction de déchets alimentaires. C'est bien ça?
Absolument, surtout dans les collectivités.
Surtout dans les collectivités, vous allez nous parler des différentes missions dans lesquelles vous êtes engagée. Johan Thiriot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du 1912, c'est la table gastronomique des Cures Marines. C'est le restaurant qui est vraiment au cœur du casino de Trouville-sur-Mer, dans le Calvados.
C'est ça, exactement.
Depuis combien de temps?
3 ans maintenant.
Depuis 3 ans maintenant, vous êtes étoilé Michelin. Vous avez travaillé longtemps avec Michel Brasse. Et ce n'est pas un hasard, le grand Michel Brasse de l'Aïeul, 3 étoiles, qui avait quand même une approche très paysanne et économe de la cuisine. Le zéro déchet, le recyclage est aussi au cœur de votre démarche gastronomique. On va en parler avec vous. Je vous propose tous les deux une petite battle, un duel pour parler en bon français. On va vous soumettre comme ça des déchets alimentaires et vous allez rivaliser d'idées et d'imagination dans les fauteuils des chroniqueurs, des chroniqueuses aujourd'hui. Notre chroniqueuse tout-terrain Estherelle Payani, notre libraire gourmande Déborah Dupont. Hello les filles, ça va?
Salut.
Bonjour.
Vous allez bien?
En pleine forme.
Estherelle.
Aujourd'hui, je vais semer de la poudre de perlimpinpin sur le
plateau. Du pain et des idées, très bien. Ouais. Bon, vous avez des idées avec du pain, très bien. On va voir ça avec vous, Déborah.
Alors moi, ce sera non pas la poule ou l'œuf, mais le jaune ou le blanc, le jaune et le blanc, on verra.
Ah ouais, un livre tout à fait étonnant pour recycler le jaune et le blanc. On va voir ça avec vous tout à l'heure et avec nos invités. Derrière la vitre de la régie aujourd'hui, Laurent Thomas avec Guillaume Roux et Nadia Chougui. Retrouvez d'ores et déjà nos coups de cœur, nos infos pratiques, les recettes de nos invités, le podcast de l'émission sur franceinter.fr à la page « On va déguster ».
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Excusez-moi, 2 morceaux de pain, c'est pas un peu beaucoup?
Juste avant de passer en cuisine pour apprendre à ne rien jeter, on prend quelques bonnes résolutions anti-gaspi. Quelles bonnes idées avez-vous décidé d'appliquer? Allez, on commence avec Déborah Dupont.
Alors, on a déjà une appli qui s'appelle Too Good To Go.
Et too good to go.
Too good to go, exactement. Trop bon pour être jeté, trop bon pour être détruit. Une appli qui permet en fait à chacun, en se connectant, de voir autour de lui, chez les restaurateurs, les épiceries fines, la restauration rapide ou traditionnelle, mais même aussi les supermarchés, quels sont leurs invendus qu'ils soldent le jour même. Donc en fait, on peut précommander un panier. Donc ça peut être pour des hôtels, des panières de petit déjeuner qui vont être à moitié prix ou à un tiers du prix quelques heures après. Mm-hmm. Ça peut être des plats tout préparés, ça peut être de la viennoiserie, des gâteaux. Et il y a des très grands noms aussi qui s'en mêlent. Je sais que Vincent Gerlet, par exemple, le pâtissier nantais, membre des Relais Desserts, fait partie des partenaires. Et je crois que notre invité, d'ailleurs,
Exactement.
Et aussi affilié.
Johan Thiriot, Too Good To Go, ça vous parle?
Oui, ça fait une petite année qu'on travaille sur cette appli et c'est vrai que c'est pratique. Alors on le fait sur le buffet petit déjeuner également. On le vend coût matière, donc du coup nous, ça nous permet encore une fois de réduire nos déchets et puis voilà, c'est un échange de bons procédés avec nos clients.
Concrètement, comment on s'y prend? Vous dites j'ai à disposition après le petit déjeuner de telle date, de tel nombre de brioches, de fruits découpés, etc. Et vous les revendez, à prix coûtant en quelque
sorte.
Voilà,
exactement, c'est vendu à prix coûtant et les personnes viennent récupérer le bien en fin de service. Et encore une fois, ça fait un petit marché supplémentaire.
Très bien. Et vous avez des candidats qui viennent
Nombreux, oui, ça fonctionne bien. Sur Trouville, on a même une clientèle d'habitués, ouais, à ce niveau. Ouais.
Mais quels sont leurs profils? Est-ce que c'est des gens qui sont plutôt dans le besoin, sociologiquement? Est-ce que c'est tout un chacun?
Pas forcément, on a vraiment tout profil de personnes. Ça va du jeune écolier au retraité. Enfin, on a vraiment un profil assez large.
Ouais. Too good to go. Ben voilà une bonne idée, on peut tout à fait télécharger cette appli. On passe à Estherelle qui a une autre idée, enfin quoique je crois que vous êtes un peu
dans la drèche. Ouais, là on est dans la drèche jusqu'au cou parce que ça s'agit des résidus du brassage des céréales qu'on utilise pour fabriquer la bière.
Vous connaissiez ou pas la drèche?
Oui, moi je connais. Parce
ou
que
les drèches, plus exactement.
Il y en a de plusieurs types en effet.
Justement chez Marcotte dont je vais vous parler après, ils utilisent aussi les drèches de la bière qu'ils vendent dans leur restaurant.
D'accord.
Et du coup j'avais essayé de développer des barres de céréales.
Il s'agit effectivement de résidus de brassage.
Exactement, et en général c'est de l'orge maltée, mais on peut trouver aussi du riz, du maïs, selon les cas. Quand on fabrique 100 litres de bière, il y a environ 10 à 20 kilos de drèche qui restent. Mmh. D'habitude, on les donne à manger aux animaux, mais on peut aussi les manger nous. Enfin, quand même pas nature pomme ça, parce que c'est un peu hardcore à manger. On peut en faire surtout des nouilles. Voilà. Ça, c'est vraiment mon coup de cœur. J'en ai même amené pour vous les faire goûter. Ça s'appelle « Ramène tes drèches ». Parce que ces ramen valorisent des drèches de brasserie artisanale de Paris et la région parisienne.
Mais c'est bon.
C'est une jeune reconvertie, Sabrina Michet, qui a eu cette idée en transformant... elle cherchait comment se nourrir pendant les treks. Pour transformer les drèches en nouilles, elle a utilisé en plus des farines de légumineuses comme du lupin ou de la fève, qui donnent un certain liant et qui aussi boostent la teneur en protéines. C'est super adapté aux sportifs et c'est sans gluten et c'est prêt en 6 minutes seulement. Alors avec, il y a une petite sauce.
Sans gluten?
Sans gluten, vu que c'est que des drèches. Alors
l'orge.
Attends, non, je suis en train de dire une bêtise. L'orge, il y a du gluten dedans. J'ai un gage. Mais non, pour le sans gluten, l'orge, ça en contient.
D'accord.
Vous oubliez ce que je viens de dire et vous pouvez quand même savourer ces ramen de drèches. C'est des petits sachets, ça se trouve en vente en ligne sur le site My Community Beer et à Paris, à l'épicerie Les Poireaux de Marguerite. 51 rue Saint-Maur. On vous a mis toutes les informations sur le site.
C'est tout à fait étonnant. Et ces drèches qui sont donc ces résidus de malt particulièrement riches, c'est important parce que leur profil nutritionnel est très intéressant. Riche en fibres, en vitamine B, en sélénium, en phosphore, fer, zinc, cuivre, magnésium. Eh bien, on en fait également des crackers que je vous ai apporté. Nathalie Gollier et Marie Kerouédan offrent une seconde vie à des drèches bio qu'elle récupère auprès d'un réseau de micro-brasseries en Ile-de-France, mais également dans la région bordelaise. Elle les transforme en crackers. Vous êtes en train de les croquer là? C'est en train de se faire crac-crac au micro au micro de France Inter. Qu'est-ce que vous en pensez? Des crackers, alors ça s'appelle Crackers Résurrection. Là, vous avez goûté, il y a farine de châtaigne, paprika, curcuma. Il y en a un autre à base de...
Petit épeautre, fenouil et poivre.
Oui.
Qui est très très bon.
Oui,
très
féminisé.
Ouais, oui. J'aime beaucoup.
Et c'est bio, entièrement bio, et c'est composé au moins à 70%, je crois, de drèche. Donc c'est uniquement de la récupération, encore une fois, de ces résidus de brassins de bière. Vous en pensez quoi, Johan Savoie?
C'est très très bon, très sympa, ouais, intéressant. Je ne connaissais pas pour le coup, et non, je suis emballé.
Eh bien écoutez, très bien, je vous offre un paquet, allez-y, c'est Crackers Résurrection. Tous les points de vente, les informations, c'est sur franceinter.fr à la page on a dégusté. Un petit coup de cœur que vous commenciez à évoquer, Chloé Charles, Marcotte, c'est bien ça?
Oui, c'est ça,
comment
c'est
vous
Marcotte,
comment vous l'écrivez?
Marcotte.
D'accord.
C'est un restaurant qui se trouve à Saint-Ouen, c'est un premier point de vente et en fait ils ont mis un petit peu de temps à mettre le processus en place, mais ils récupèrent tous les invendus de fruits et légumes de La Vie Claire, qui est donc une chaîne de magasins bio et ils les transforment et puis ils servent des repas tous les jours avec. Donc ils savent pas trop ce qu'ils vont récupérer, mais ils récupèrent actuellement, il me semble, sur 5 points de vente entre à peu près entre 5 et 15 kilos de légumes par jour selon les points de vente, qu'ils donc retransforment, retravaillent pour éviter qu'ils finissent à la poubelle.
Très très bien. Signalons aussi Moulineau qui récupère, alors là c'est une jeune entreprise qui collecte les déchets alimentaires dans 750 établissements d'Île-de-France, en partant quand même de ce triste constat que sur 2 millions de tonnes de déchets alimentaires produits en Île-de-France, seuls 5% sont collectés. Et bien figurez-vous que Moulineau, ils ont la bonne idée de récolter ces déchets alimentaires et de les transformer en gaz naturel, en méthane, qui est ensuite recyclé dans la vie des restaurants et dans l'économie, mais également en compost. Et ce compost sera d'ailleurs bientôt distribué dans les magasins de jardinage d'Île-de-France.
Et avec un slogan formidable qui est « Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas ». Pour travailler en amont à limiter ce qu'on met dans les poubelles.
Vous avez bien raison. Mais pour ce déchet incompressible, qu'est-ce que vous en faites, par exemple, dans votre restaurant gastronomique? Alors vous, je sais que ça composte aussi pas mal du côté du 1912.
Ça composte beaucoup parce qu'on a un jardin en fait aromatique où je cultive toutes mes plantes en bio. Et j'ai mis en place un cercle assez vertueux à ce niveau-là, c'est-à-dire que la plupart de nos déchets finissent dans ce compost, et moi ça me permet d'agrémenter mon jardin et d'avoir une belle floraison.
Les coquilles d'œufs, ouais. Les pelures, même si on va voir, et c'est tout l'enjeu de cette émission, que bon nombre de déchets, vous avez raison Estherelle, ben on évite qu'ils finissent d'abord à la poubelle et on les recycle, notamment dans sa cuisine. On va voir ça avec vous, nos deux invités relèvent le défi de l'anti-gaspi. Juste après un petit coup de guitarrada. Là je prends plutôt l'accent espagnol, il faudrait prendre l'accent brésilien car c'est un mélange de musique caribéenne et amazonienne, une popote musicale qui nous vient du Brésil. Saulo Duarte avec Flor do Sonho, choisi par Djoubaka. On est bien sur France Inter.
Lanço-me agora nesse salto. Eu já não tenho medo do escuro. E mostro o meu lado mais seguro. Às vezes sou um pouco atravessado. A minha voz urgente te dizendo que eu já não tenho tanto tempo assim. E o que sobrou do tempo pra mim? Eu penso em você.
Le gaspillage alimentaire, un fléau qu'on a du mal à juguler. 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont perdus chaque année dans notre pays. Cela veut dire que chacun de nous jette en moyenne 29 kilos de produits alimentaires par an, dont 7 kilos de produits tout emballés. On la connaît, cette triste réalité, mais je voudrais, Johan Thiriot et Chloé Charles, vous faire réagir sur une réalité qui, elle, est encore un peu cachée, qui commence à voir le jour, c'est l'immense gaspillage auxquels procèdent les restaurants gastronomiques. dans des palaces parisiens, on ouvre des oursins à l'avance en prévision du service, s'ils ne sont pas commandés pendant le service, évidemment on ne peut pas les garder, le lendemain on les jette, on les recycle pas, tout ça finit à la poubelle. Grand, grand gaspillage, est-ce que vous avez conscience qu'on gaspille beaucoup dans les restaurants gastronomiques? Chloé Charles, vous y avez travaillé beaucoup?
Alors moi j'y ai travaillé beaucoup, mais j'ai eu la chance de travailler avec des chefs qui justement c'est attention, très attention, comme David Toutain qui aussi utilise 100% du produit et a un cercle vertueux dans son restaurant. À Septime, c'est encore plus drastique.
Le restaurant de Bertrand Grébeau, Paris 11e.
Exactement, j'ai aussi pas mal participé à ce que ça soit de plus en plus développé. Moi, je sais que ça a été un choix de carrière aussi de pas travailler dans des restaurants où on gaspillait, parce qu'en fait, ça me fait hérisser le poil, et du coup, j'ai un peu évité tous ces palaces qui prennent le cœur du foie gras et qui jettent les parures, ce qui n'a concrètement pas vraiment de sens. Mais c'est, oui, c'est une réalité, malheureusement.
Joanne Thirieux, vous avez eu la chance, vous aussi, de travailler avec un mentor qui, pour le coup, par son éducation familiale, paysanne, a été très tôt sensibilisé, évidemment, à l'idée de ne rien jeter, de tout recycler. Quand une volaille, un légume, de A à Z, épluchure, déchets inclus, on recycle tout.
Exactement, Michel Brass m'a formé pendant plus de 5 ans, j'ai tenu d'ailleurs son deuxième restaurant au Japon, et c'est vrai que c'est devenu une évidence pour moi aujourd'hui de travailler de cette manière. Quand j'ai commencé le métier, on m'apprenait qu'une asperge devait tailler à 15 cm, moi je trouvais ça hallucinant, je comprenais pas pourquoi, et aujourd'hui bah, je me dis qu'il y a une réalité, et heureusement la roue tourne et on revient aux choses essentielles. Bah, l'asperge elle fait la taille qu'elle fait, et tant mieux comme ça, quoi.
Prenons le cas d'un produit tout à fait emblématique à la carte de votre restaurant. On est en plein dans la saison. Vous êtes dans un produit parfaitement local. Je vais évoquer la Saint-Jacques, coquille Saint-Jacques.
Ah, j'espérais qu'on en parle.
Non, mais impressionnant votre exercice de recyclage. Ouais. Vous voyez arriver évidemment les coquilles Saint-Jacques de pêche locale, on est d'accord?
Exactement. Ouais,
dans leur coquille, avec leur couvercle.
C'est ça.
Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Quel plat vous faites?
Ouais, alors j'ai une recette où je travaille 100% de la matière. Donc la noix, bien sûr, elle est juste.
On la jette. On garde que la coquille.
Voilà, exactement. La noix est juste snackée. Le corail sert à faire un espuma pour faire la sauce, tout simplement. Les barbes, elles sont nettoyées. Alors, elles ont travaillé deux fois.
Les barbes, on rappelle ce que c'est dans l'anatomie de la Saint-Jacques?
Alors, c'est la petite valve qui est tout autour. Voilà. Et donc, là-dessus, c'est là où il y a le plus de goût, finalement. Et bien souvent, on le jette et c'est dommage. Donc, on en fait soit un fumé, soit des chips croustillantes. On les met à mariner dans un vinaigre de riz. C'est excellent.
J'ai fait un truc hier, conseillé par Alban Chand, qui est actuellement le chef résident de Fulgurance. En fait, je les brasse au KitchenAid avec du gros sel, donc elles font ressortir toutes leurs barbes.
Là, vous parlez des barbes.
Je parle des barbes, ouais. Oui. Elles ressortent toutes leurs, ça fait une espèce de mousse marron, ouais, exact, parce que c'est quand même, vu qu'elles filtrent l'eau, c'est quand même pas très propre. Et ensuite, je les ai fait pocher pendant 3 heures dans un bouillon que j'ai fait à partir, justement, j'avais des sol aussi, parce que je fais un dîner pour des clients pour demain soir. Donc j'ai fait un fumé de sol. Je les ai fait pocher pendant 3 heures dedans, donc ça donnait encore plus de goût à mon fumé de sol. Et en fait, c'est hyper mangeable tel quel, et c'est super bon. Et ça a une bonne mâche, hyper agréable, et ce goût de Saint-Jacques qui reste quand
même.
C'est
ça, c'est que c'est porteur, c'est pas très beau comme ça. On a l'impression que c'est un peu... c'est clairement les... c'est une partie de l'estomac, etc., oui, de l'animal, mais les viscères, oui. Et en même temps, c'est très porteur de goût.
Ouais, c'est très porteur de goût, mais c'est valable pour plein de produits, hein. Le turbo, c'est pareil. Enfin, le poisson, en général, on a tendance à jeter beaucoup de choses, et malheureusement, enfin, il faut les garder. Mais je reviens sur la coquille. Justement, la coquille en elle-même, alors ça peut être...
Vous faites des cendriers?
Bon, voilà ce que j'allais dire. On peut souvent faire des cendriers, mais moi, je l'utilise d'une autre manière, c'est-à-dire que je les broie, et très finement, je fais une espèce de poudre, et je mélange ça, en fait, à mon compost. Non, mais... C'est très riche en azote, et du coup j'ai une floraison, voilà, c'est du calcaire, et j'ai une floraison quasi instantanée sur mes plantes aromatiques, et ouais, c'est sensationnel. Ouais.
Un peu comme les coquilles d'huîtres qu'on donne aux poules pour que les coquilles des œufs soient plus dures. Ouais. Chloé Charles,
je disais, comment tu les broies?
Alors, départ au marteau, c'est pas facile.
Vous avez dit, échange de bons procédés aujourd'hui sur le plateau dont on va déguster.
Alors, au début au marteau, tu les fracasses au marteau, et puis ensuite dans un robot avec une lame assez puissante.
Puissant le robot.
Un robot professionnel, hein, peut-être qu'à la maison, c'est une autre.
Mais non, mais maintenant les robots standards familiaux fonctionnent très très bien pour ça aussi. Hein,
ouais. On attend vos courriers à ceux qui testeront.
Bon, nos deux chefs, je les sens déjà bien entraînés, bien échauffés pour un petit duel.
Allez, c'est parti.
Un petit duel de cuisine anti-gaspi. Je vous cite un reste, un déchet, un relief, quelque chose qui finit normalement dans la poubelle. Et vous allez offrir à ce quelque chose une seconde vie avec un peu d'imagination et quelques gestes. Quand on vous disait que rien ne se perdait et que tout se transformait.
On va ouvrir le petit pois, les gens vont jeter l'écosse. On peut faire de très bonnes soupes avec l'écosse. Bonjour ! Une cuisse de poulet, s'il te plaît. C'est parfait. Et tu coupes rien, hein, parce que c'est pour un bouillon. Je vois pas de raison, en fait, d'aller acheter des cubes de bouillon tout prêt, alors que j'ai à la maison ce qu'il faut avec les restes de mes repas pour en fabriquer.
La semaine prochaine, ça tombe bien, on consacre notre émission au petit pois. Mais pour arriver au petit pois, il faut d'abord enlever...
La cosse.
La cosse. Et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement en faire, Chloé Charles, vous avez une idée ?
Faut les centrifuger, ça fait un jus de petit pois qui est hyper bon.
Génial. Si on n'a pas de centrifuge à la maison ? Centrifugeuse ?
Faut les mixer, en fait, avec un petit peu d'eau. Mm-hmm. Mais vraiment à peine, c'est juste pour aider le mixeur à commencer à mixer. Et ensuite, les presser dans un torchon.
Et on obtient ce jus de petit pois.
Et on obtient ce jus de petit pois qui est vraiment délicieux. Et soit on peut le boire cru.
Ouais.
Avec éventuellement un peu de feta dedans, ça fait une petite entrée. Soit il peut servir aussi à glacer les petits pois pour leur rajouter encore plus de goût.
D'arôme, rajouter de l'arôme sur le petit pois, voilà une très bonne idée. C'est-à-dire que quand on étuve ces petits pois, on peut mettre quelques cuillères à soupe de jus de petit pois.
Au lieu de mettre de l'eau, on met du jus de petit pois.
Et ben, voilà une très bonne idée, Joanne Thiriot.
Pareil, oui. Alors, ou alors en infusion, on peut faire ça sur des fumées de poisson également. Mmh. Et après, il y a la peau également du petit pois. Quand on sépare le petit pois, on a donc un pois cassé. Et cette peau, pour le coup, on la jette systématiquement. Et ben, moi, je vous conseille de la laisser tremper dans un sirop très léger. Et ensuite, vous la mettez dans un déshydrateur et vous obtenez des chips absolument succulentes. Et c'est vraiment avec un petit poivre de cuméo, ce genre de choses, ça donne des reliefs et c'est super sympa.
Très bien. Déborah, une idée ?
Alors, moi, une idée tirée d'un livre.
Que vous piquez dans un livre.
J'ai un peu une bibliothèque idéale qui est d'ailleurs sur le site internet. Une parmigiana de cosse de fèves. Donc, je pense que ça peut aussi s'appliquer aux cosses de petits pois tirées d'un livre des éditions Marabout.
Oui.
Où, en fait, on fait blanchir, enfin, un peu plus, puisqu'elles vont passer 10 minutes dans l'eau bouillante. Et ensuite, on les monte dans un plat à gratin avec de la passata, donc de la purée de tomates, avec de la mozzarella. Et on fait gratiner, donc, pendant à peu près 30 minutes au four, et on obtient donc une sorte de parmigiana avec des cosses.
Mais c'est excellent, une très bonne idée. Donc ça marche pour les cosses de petits pois, mais également les cosses de fèves. Estelle ?
Alors moi, avec le jus de petits pois, je trouve que c'est formidable dans un risotto à la fin. Pour la liaison, ça donne un super boost en goût. Et en beignet, les cosses de fèves et de petits pois en beignet, tout simplement, comme les fleurs de courgette.
Très bien.
Plutôt à la farine de pois chiche. Après, avec une pâte à beignet classique, ça marche super.
Très bonne idée.
Dans ce cas-là, je pense qu'il faut que les petits pois soient quand même assez jeunes, parce que plus ils sont...
Les fils.
Voilà, sinon il y a quand même des très gros fils quand ils sont plus
grands. Un peu de temps à les enlever.
Plus ils passent plus ils avancent en maturité, plus c'est fibreux. Donc voilà, on tient compte aussi évidemment du stade de maturité. On passe à un autre objet alimentaire. C'est encore la saison des légumes tubercules, comme la betterave par exemple. On se concentre très souvent sur la racine, mais on jette en général la pousse, les fans. Betterave par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire, Chloé Charles, avec des fans de betterave en ayant déjà consommé
la betterave,
tant qu'à faire.
Justement, j'en ai ramené ici. Moi, j'ai fait des pickles de tiges de betterave. Betterave absolument magnifique qui viennent de chez Olivier Durand et des très très grandes tiges. Et j'ai récupéré un pickles de betterave que j'avais fait avec des fleurs d'aneth. Et voilà.
C'est des cornichons. Possible.
Ouais. Mmh. Ah oui, c'est clairement des cornichons.
Les proportions pour faire ces pickles, parce que là, c'est vraiment c'est croquant. D'abord, vous les coupez assez fin.
Non, alors je les laisse entières parce que ça permet qu'elles flétrissent pas trop. Et ensuite,
vous utilisez les tiges et pas les feuilles, hein.
Là, j'utilise que les tiges.
D'accord.
Et donc les proportions pour un pickle, c'est les mêmes pour quel que soit le pickle que vous faites. C'est un volume de sucre, deux volumes de vinaigre blanc. Moi, je trouve que le vinaigre blanc ménagé, finalement, c'est le meilleur parce que ça apporte l'acidité et il ne faut pas trop chercher plus loin. Et trois volumes d'eau. Après, vous pouvez infuser avec ce que vous voulez. Là, il y a des fleurs d'aneth dedans. J'ai fait avec des écorces d'orange sanguine. J'en ai fait plein de trucs.
Et c'est acidulé. Attendez, j'ai mal suivi ou il n'y a pas de sucre ? Non.
Il y a un volume de sucre, deux volumes de vinaigre,
Sucre, deux volumes de vinaigre blanc, trois volumes d'eau. Voilà. Et ben ça, là, c'est le 1, 2, 3.
Absolument, c'est le 1, 2, 3. On fait bouillir et on verse bouillant sur les tiges de betterave. On laisse comme ça une nuit et ça fait ce résultat.
Ça, je peux vous assurer qu'il va y avoir des auditeurs et des auditrices derrière leur poste de radio qui vont s'essayer au pickles 1, 2, 3 avec des tiges de betterave par exemple, mais ça peut marcher avec plein d'autres légumes, j'imagine, Joanne Thiriot.
Ah oui, ça marche avec plein d'autres choses, mais je sais que je reviens sur la betterave, un gratin de betterave, c'est assez simple aussi à faire. Vous prenez toutes les tiges,
oui.
Vous les émincez finement, blanchies si possible, mais c'est pas nécessaire. Vous rajoutez après un appareil à base d'œufs, donc à peu près 4 œufs et 250 grammes de lait, et vous faites prendre ça au four à 160 degrés. Vous avez un gratin, comme si c'était un gratin de blettes, mais sauf que c'est de la betterave. Et moi, je trouve ça exceptionnel, c'est super bon. Quoi.
Et extraordinaire, vous avez appris ça auprès de Michel Brasse?
Non, là, c'est tout seul, là, c'est la récup à la maison, là, pour le coup.
C'est la récup à la maison. On va continuer tout au long de cette émission, évidemment, cette battle avec plein d'autres idées et astuces que vous nous fournissez aujourd'hui. Joanne Thiriot, le chef du 1912, le restaurant Une Étoile du casino de Trouville-sur-Mer dans le Calvados. Et Chloé Charles, spécialiste maintenant, ça devient sur la scène parisienne une des grandes spécialistes de la réduction de nos déchets alimentaires.
Absolument.
Et c'est une excellente nouvelle. On parle, si vous le voulez bien, pain rassis.
On va déguster. Sur France Inter.
L'un des produits les plus consommés en France, et oui, c'est le pain, notre pain quotidien. Seulement voilà, on passe son temps à le jeter, et en plus il a une durée de vie brève, c'est tout le problème.
En France, on achète 10 milliards de baguettes de pain par an, 320 par seconde. D'ailleurs, elles finissent trop souvent rassises au fond de la corbeille ou à la poubelle de la cantine quand on a pris trop de tranches. Sachant qu'il faut 1000 litres d'eau pour produire 1 kilo de farine, toute baguette perdue, c'est une baignoire entière de gaspillée.
Oh là là.
Comme on dit en Angleterre, nos pains, nos gains. C'est en plus vraiment dommage de la jeter parce que c'est un aliment qui est particulièrement facile à retravailler.
Et évidemment, c'est l'ingrédient de base de cette fameuse poudre de perlin, pain... Pain.
C'est comme ça qu'on appelle chez nous la chapelure, oui. En changeant un peu l'orthographe. À la maison, quand même, un petit rappel. Il vaut quand même mieux faire sécher son pain coupé en morceaux au four avant d'essayer de le mixer. L'idéal, c'est quand on fait préchauffer le four ou quand on vient de l'utiliser, qu'il est encore chaud et qu'il est éteint, histoire d'être vraiment anti-gaspille jusqu'au bout.
Mm-hmm.
Ensuite, on le mixe parce qu'il s'effrite plus facilement et surtout, il se conserve bien mieux. La chapelure, c'est quand même l'indispensable pour plein d'autres recettes anti-gaspille. Les croquettes, la farce. Et puis, quand c'est pané, c'est planqué, ça fait à peu près tout passer. C'est aussi la base de super recettes qu'on aime particulièrement. Les pâtes à la chapelure et à l'ail, les fameuses pâtes siciliennes, les sauces catalanes et puis plein d'autres choses à
la
base
panzanella.
De chapelure. Ah, la panzanella.
Un petit mot, définition de la panzanella, cette spécialité toscane. Allez-y, Chloé
Charles. Salade de pain grillé avec des tomates, beaucoup de un petit peu d'ail, du vinaigre, de l'huile d'olive. Ce pain qui imbibe le jus de la tomate.
C'est ça qui est prodigieux. C'est que ça sert d'éponge et ça éponge le jus de la tomate qui a un jus magnifique, très acidulé, mais également l'huile d'olive, etc. Et quel goût en bouche.
Et en hiver, moi, je le fais avec des champignons de Paris aussi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en fait, les champignons de Paris, quand ils sont assaisonnés, ils vont rendre beaucoup d'eau.
Oui.
Et donc, du coup, vu qu'il n'y a pas de tomates en hiver.
Ah bon? Vous ne mangez pas de tomates en hiver? Oui, ça m'étonne.
Je ne mange pas de tomates en hiver.
Donc, vous faites la même chose l'hiver avec les jambons de Paris?
Non, les champignons.
Je ne suis pas très bien réveillé.
Si
je vais faire mon marathon, en fait, je suis un peu crevé. Le marathon de Paris. Non, bien évidemment, les champignons de Paris qui rendent un peu d'eau dans une salade. Ou
dans une salade et qui du coup, enfin quand ils sont assaisonnés avec le vinaigre, l'huile d'olive, le sel, rendent de l'eau et du coup cette eau peut aussi se faire imbiber par le pain rassis.
C'est ça. Estherelle, le gaspillage alimentaire, c'est à la maison mais c'est aussi beaucoup sur les lieux de production.
Mais oui, pour les pros, quand on parle d'une cantine ou d'une boulangerie, c'est pas du tout les mêmes quantités qu'à la maison. On est carrément dans Game of Croûte chez eux. La première idée qui m'a plu, justement, toutes les initiatives qui permettent de revaloriser le pain, c'est celle d'Explicit. Alors ça s'écrit EAT à la fin, qui a mis au point pour les boulangers une sorte de méga broyeur qui s'appelle le crumbler, adapté aux pros, qui réduit en chapelure fine ou grossière le pain de la veille. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'il soit dur. Et ensuite, pour réutiliser cette poudre comme une farine dans des tartelettes ou des madeleines à hauteur de 10 à 20%. Pour le moment, il y a 35 boulangers qui l'utilisent en région parisienne et bordelaise.
Il faut encourager les boulangers qui nous écoutent à aller vers ce crumbler.
Et il y a aussi une autre initiative, c'est celle de Collectou, K-O-L-E-C-T-O-U, qui récolte le pain, le broie et le transforme dans les cantines et les boulangeries industrielles et en fait des préparations prêtes à l'emploi pour des cakes salés, sucrés, des cookies, des muffins
qu'on utilise ensuite en collectivité. On peut aussi les trouver dans les épiceries Day by Day, qui sont spécialisées dans le vrac. Et puis, il y a aussi encore des brasseries artisanales qui utilisent du pain rassis, comme le Boc à Perpignan ou Coco Miette dans l'Isère.
Bon, donc ça fourmille quand même d'idées. C'est une heureuse nouvelle si on a tendance à regarder le verre à moitié plein. Décidément, vous aimez vous faire mousser aujourd'hui, Estherelle, avec toute cette bière. Hein,
oui, nous décidément, ça devient obsessionnel, la bière. Donc, on va plutôt revenir à nos croutons. Mm-hmm. Quand il reste du pain, on fait du gazpacho, du pain perdu, de la chapelure, du pudding, de la panzanella. Et quand même, il nous reste du pain et des jeux, au final, quand on manque d'idées. Non, en fait, plutôt du pain et des oignons. Ah. Soit les ingrédients de base de la pissaladière.
Ah là là.
Ami niçois, soyez indulgents, éloignez-vous de votre poste, ne m'envoyez pas de colis piégés à la soca, je suis au courant que je vais trahir la vraie pissaladière dans un instant. Je jure néanmoins que je ne mettrai jamais de pommes de terre ni de haricots verts dans la salade niçoise.
Donc c'est une pinsaladière.
Voilà, c'est une base de pain trempé avec une compotée d'oignons, des anchois, des olives. Et en plus, le gros avantage de la pinsaladière, à part l'hygiène des glandes lacrymales post-épluchage oignon que je vous recommande, c'est justement qu'il faut beaucoup, beaucoup d'oignons, ce qui fait beaucoup, beaucoup de pelures. Et les pelures d'oignons, on ne va pas les gâcher non plus. Quand on les fait bouillir 45 minutes, on obtient une décoction colorante absolument redoutable que vous pouvez utiliser pour teindre vos œufs de Pâques la semaine prochaine, mais également pour teindre vos serviettes de table,
ce que j'ai fait la semaine dernière.
On obtient une sorte de jaune safran selon combien de temps on laisse
jaune tremper. Jaune safran, couleur toile de jute.
Alors, on dose le temps selon le trempage, ça marche très bien. Et vous pouvez même, si vous avez la chance d'avoir des reflets roux dans vos cheveux, les renforcer avec un petit rinçage à base de cette eau. Voilà, c'est ça le secret de mon fameux roux, vous savez tout. Donc, le recyclage de l'oignon jusqu'au bout des cheveux. Mais si vous allez moins loin que ça, vous pouvez déjà faire juste la pince à la dière. La base, c'est très simple. 125 g de pain rassis que vous faites tremper dans 25 cl de liquide, de l'eau ou du lait. Un quart d'heure, on mixe un œuf, 30 g de farine. Si vous le souhaitez, un petit peu de fromage à pâte dure, râpé. Vous mélangez tout ça, étalez en tassant avec une cuillère au fond d'un moule à tarte, cuire 20 minutes environ pour que ça durcisse, que ça dore un peu. Par-dessus, la compotée d'oignons traditionnelle de la pissaladière, 1,5 kg d'oignons blancs sués avec un peu de laurier, un peu de thym, des anchois, des olives et au four, 30 minutes.
Goûtez-la.
Ouais, je vais goûter.
Non, c'est étonnant. Cette pâte faite à base de 125 g de pain rassis avec de l'eau, un œuf, un tout petit peu de farine quand même, mais 30 g seulement.
Trop bon.
C'est incroyable, non?
Excellent.
Je vais te piquer la recette.
Mais... Ça, c'est un compliment. Merci, Chloé.
En plus, la pâte s'est légèrement mouillée parce qu'elle a un tout petit peu attendu, mais elle est remarquable. Elle a une très belle texture. Mmh. C'est magnifique. Ça va. Non?
Non, très très bien. Ouais.
Alors, voilà une bonne idée. Bon, vous n'allez pas vous en tirer si facilement, chers amis invités, puisque je vous ai demandé aussi, allez, un petit truc. Il y a évidemment une panoplie très large de procédés, de stratégies pour recycler le pain rassis. S'il y avait une petite idée à livrer à ceux qui nous écoutent, vous diriez quoi, Chloé Charles?
Moi, généralement, je fais des croutons que je conserve au congélateur et ça me fait mes frisées au lardon, ça me fait mes panzanella, ça me fait tellement de choses, les croutons, parce que les croutons, c'est bon dans beaucoup, beaucoup de choses.
Absolument, très bien.
Et je les fais dorer directement au four avec des oignons. En fait, je fais oignons, croutons et lardons et directement tout coloré au four et ça prend bien le goût de... Tous les ingrédients s'échangent.
Très bonne idée.
Moi, j'ai deux astuces. La première, c'est tous mes jus de viande, enfin tous mes jus en général, je les lie avec de la chapelure. En fait, je fais un roux, mais à la place de mettre de la farine, bah du coup, je mets cette chapelure toute fine. Et du coup, on a une liaison parfaite. Ça amène même un côté un peu torréfié, toasté, qui est plutôt sympa aux sauces. Et la deuxième, mais là, pour le coup, c'est pas une recette à moi, c'est une recette emblématique de Michel Brasse.
Oh là là, ouvrez vos oreilles.
Alors là, pour le coup, niveau anti-gaspi, c'est top. En fait, il récupère tout le pain, donc il en fait une grosse chapelure, mais assez épaisse.
Et
dedans, assez grossière, voilà, exactement. Dedans, on y rajoute des blancs d'œufs, un beurre clarifié, une pointe d'huile de noisette, par exemple, ou sésame, peu importe. Et ensuite, vous faites prendre ça au congélateur, vous taillez, vous cuisez ça 7 minutes au four, et vous avez en fait une mouillette pour un œuf coq.
Une mouillette 3 étoiles?
Ouais, une mouillette 3 étoiles.
À base de récup. Non, attendez, les proportions, pardon, parce qu'on va avoir plein de mails d'auditeurs. Quelle quantité de pain à peu près pour les blancs d'œufs?
Allez, on va dire que pour 500 grammes de pain, vous mettez 6 blancs d'œufs, 100 grammes de beurre clarifié, donc on sépare le petit lait du beurre, et vous rajoutez 50 g d'huile parfumée. Alors ça peut être de l'huile d'olive, huile de sésame, huile de noisette, juste pour amener un arôme supplémentaire.
On peut mettre quelques herbes?
Quelques herbes, bien sûr. Alors là,
queues de persil, par exemple.
Queues de persil, par exemple.
Et on obtient ces fameuses mouillettes qu'on fait d'abord congeler, si j'ai bien compris. On les découpe ensuite en forme de mouillettes. On les fait cuire 7 minutes au four.
7 minutes au four. Et en fait, l'idée, c'était de se dire, bah, le matin, quand on a envie de manger un œuf frais et qu'on n'a pas encore eu le temps d'aller chercher sa baguette de pain, bah, on se mange ça et c'est top.
Et les mouillettes de Michel Brass, elle est bonne cette idée, non?
Ça fait envie.
Ça fait vraiment envie. On va se retrouver pour plein d'autres astuces. Juste après notre ami Miossec, avec les gens quand ils sont les uns dans les autres. Tout un programme. Belle journée sur France Inter.
Les gens quand ils sont les uns dans les autres, veulent-ils alléger de tous leurs tourments? Veulent-ils se laver de toutes leurs fautes? Veulent-ils retrouver la légèreté? Ce moment rare où l'on flotte, où l'on pense enfin avoir trouvé le produit, le remède, le vaccin, l'antidote. Faire
aujourd'hui, promis, on ne jette rien en cuisine. Leçon de cuisine anti-gaspi avec nos deux invités, Joanne Thiriot de Trouville et Chloé Charles, indépendante, dont le métier de consultante anti-gaspi
oui.
Progresse.
Oui, absolument.
Vous avez des missions à la fois dans des restaurants, dans de la restauration collective.
J'étais dans des restaurants et là on s'attaque à la collectivité où il y a beaucoup de gaspillage, notamment dans les cantines d'entreprise où les clients qui consomment à la cantine sont aussi responsables que les cantiniers.
Et vous sentez des efforts, vous sentez une vraie prise de conscience de la part des professionnels, oui, de la restauration collective?
Oui, et ils ont une prise de conscience naturelle, mais aussi, en fait, ils vont y être obligés par la loi, donc forcément, ils s'y mettent.
La loi, là, vous évoquez une loi...
Il y a une loi qui passe en 2021 ou 2025, j'ai oublié, qui dit que 50% des produits vont devoir être... des produits utilisés dans les cantines vont devoir être éco-responsables et avec 20% de bio. Et en plus de ça, ils vont devoir justifier le fait qu'ils essayent de faire de leur mieux et produire des rapports pour leurs avancées éco-responsables dans les cantines directement. Donc du coup, ils s'intéressent à tous ces sujets-là.
Des réactions du côté de nos auditeurs, Estherelle Payani.
Il y en a Marianne qui nous signale qu'on peut faire bien d'autres choses avec les coquilles Saint-Jacques.
Par exemple,
elle nous signale la savonnerie d'Armor qui intègre de la poudre de Saint-Jacques dans un savon exfoliant qui n'agresse pas la peau avec une mousse très fine.
Joanne Thiriot n'a pas encore l'envie de se lancer dans une carrière de maître savonnier, mais en tout cas, c'est une très bonne idée.
Avec
merci.
La Thalasso de Trouville, il y a un partenariat
exactement.
Trouvé.
J'avais oublié. Pour faire des, comment on appelle ça, des gommages.
Oui. Des gommages.
Déborah.
Un auditeur ou une auditrice, je ne sais pas puisque ça n'est pas signé, signale que le restaurant Le Chacha à Nantes travaille sur le zéro déchet et a installé un frigo solidaire. Et effectivement, les initiatives de frigo solidaire se développent de plus en plus en France à l'initiative de particuliers ou de professionnels et permettent aux invendus de trouver preneur et là totalement gratuitement dans la rue.
Très bien, on continue notre petit défi anti-gaspille avec des déchets qui finissent normalement dans la poubelle et auxquels vous offrez une seconde vie, chers amis invités, des bananes noircies. Très souvent, on achète des bananes. Évidemment, on peine à les consommer quand elles sont à juste maturité. Et elles finissent par noircir dans un coin de la corbeille à fruits.
On a fait l'émission banane il n'y a pas très très longtemps. Donc, les auditeurs retrouveront sur le site le pancake et le banana bread, le pain à la banane, dont j'avais donné les recettes à l'époque.
C'est ça. Et... recettes dans lesquelles on utilise de préférence effectivement
des bananes trop mûres.
Des bananes trop mûres, des bananes surmûres. Est-ce que vous avez d'autres idées, Chloé Charles ?
Alors, j'ai pas essayé, mais je sais que
on
peut faire des vinaigres de bananes qui sont super bons.
Vinaigre de banane.
Et notamment avec des peaux de banane uniquement aussi. C'est-à-dire qu'on peut mettre la banane trop mûre en entier, mais avec les peaux de banane, il paraît que c'est très bon.
Très bien.
Ça fait partie des choses que je vais essayer.
Mais c'est parfait.
Ma compagne Emilie, elle m'a fait une recette une fois de crème brûlée à la banane, sensationnelle, justement avec des bananes trop mûres. Et ça donne un côté caramélisé, justement avec le sucre qu'on met dessus, là. C'est exceptionnel. Enfin,
ça ajoute de la gourmandise.
Oui, alors c'est une recette traditionnelle. À la recette de base, on y rajoute juste les
recette
bananes.
Recette de base
trop
mûres. De la crème brûlée.
Voilà, hein. Exactement. Et on y rajoute ces bananes trop mûres et voilà, saupoudrées de sucre, légèrement brûlées sur le dessus et rien de plus.
On obtient le goût de banane ?
Ah oui, c'est même impressionnant. Ouais.
Super idée. Bah voilà, Estherelle ?
Quand on avait reçu Massimo Bottura l'année dernière pour le pain et d'or et le lancement du réfectorio à Paris, il avait raconté que les bananes, c'était l'ingrédient qu'à travers le monde, on redonnait le plus facilement. Donc ils avaient croulé sous les recettes de bananes et qu'on avait fait une fois un chutney avec les peaux de banane. On avait fait sur le plateau, vous avez la recette sur le site d'ailleurs.
Chutney de
peaux de banane.
Absolument, même quand elles sont noircies, c'est encore meilleur parce qu'elles se ramollissent, elles sont moins fibreuses et c'est vraiment délicieux dans un chutney où on ajoute évidemment une note d'acidité, etc. Signé Massimo Bottura, le fameux chef 3 étoiles de Modène en exactement. Italie. Allez, on passe aux pommes. Je me tourne vers vous, Joanne Thiriot, Pays de la Pomme, le Calvados, vous en utilisez beaucoup, j'imagine.
Oui, oui, oui.
Des pommes à couteau
dans
votre restaurant. Et là, on sent que ça craque encore au micro dont on va déguster. Il y a un truc prodigieux que vous nous avez apporté.
Oui.
Ça, globalement, on finit le bol quand on s'attaque à ça.
C'est tout simplement des chips de peau de pomme. Alors c'est tout simple à faire, hein. Vous épluchez vous lavez vos pommes, de préférence bio, vous les épluchez et vous les mettez à macérer, enfin à tremper dans un sirop très simple, hein, 800 grammes d'eau, 500 grammes de sucre, quelques baies de poivre pour amener un arôme supplémentaire. Vous les laissez tremper comme ça pendant 20 minutes, une demi-heure et ensuite sécher à 80 degrés et du coup vous avez quelque chose de très croustillant, très parfumé et sensationnel.
Non, mais c'est absolument génial.
Ouais, et le pépin fonctionne aussi.
Hein, les
pépins, ils sont caramélisés. Donc là, vous les blanchissez, vous les faites légèrement sécher également. Et ensuite, vous les passez dans un caramel. Et là, c'est comme une pistache caramélisée. C'est exactement la même chose. Quoi.
Oh la vache, qu'est-ce que c'est bon.
C'est bon, hein, c'est incroyable. Hein.
Non, mais c'est délicieux.
Mais alors ça, vous mettez une compote de pommes avec les chips de pépins de peau qui ressortent et les pépins par-dessus. Et vous avez un dessert.
Mais je vais même vous dire, des pépins
pain de pomme avec des chips, tout ça fait une espèce de granola uniquement de déchets de pommes. C'est absolument extraordinaire. Vous en pensez quoi, Chloé Char?
Oui, c'est formidable. Enfin, c'est tout ce qu'on recherche.
Vous lui piquez l'idée ou pas?
Je lui pique l'idée. Grave que je lui pique l'idée.
Les pépins de pommes caramélisés, j'avais jamais vu ça.
Extraordinaire. C'est pépin le bon là, c'est plus pépin le bref.
Oui, c'est ça. Bravo. Mais quand on fait une tarte avec beaucoup de pommes, des pépins, mine de rien, il y en a une petite quantité en fait.
Mais vous imaginez les volumes.
Oui.
Dans notre restaurant, on passe, comme vous l'avez dit, on a énormément de pommes, c'est le produit phare. Donc forcément, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire de tous ces pépins. Alors on peut faire des pectines aussi, tout simplement, de simples pectines pour les confitures.
Puisque le pépin de raisin a une teneur très forte, effectivement, en pectine.
On fait une pectine.
Ouais, c'est pareil, tu les laisses macérer à 80-90 degrés et tu les concasses légèrement et elles vont perdre en fait toute
dans
la pectine dans l'eau. Ouais, dans une eau. Alors le mieux c'est de prendre une eau parfumée, soit une base de sirop, c'est le plus simple, ou alors tout simplement une infusion. On parlait des causes de petits pois, voilà, tu veux faire une pectine de petits pois avec ça, quoi.
Allez, on avance encore un peu, on a quelques items à traiter. Des vieilles croûtes de fromage. Quand on mange du fromage, on se retrouve souvent avec des vieilles croûtes qui n'ont pas forcément belle mine, qu'on n'ose pas présenter évidemment sur le plateau. Et pourtant, il faut bien les recycler. Très souvent, malheureusement, on sait que ça finit à la poubelle, vieilles croûtes de brie, etc. Qu'est-ce qu'on peut en faire, Chloé Charles, une idée ou pas?
Avec les croûtes de parmesan, je les garde toujours quoi qu'il arrive, même si je les utilise pas tout de suite parce que ça se garde au frigo assez longtemps. Et je les mets dans mes bouillons ou quand je fais un risotto, par exemple, je la mets en entier dans le risotto, je la retire ensuite et en fait, elle envoie tout son goût et
sa sapidité parce que le parmesan notamment est un des grands ingrédients qui comporte ce fameux umami cinquième goût japonais, donc ça veut dire que c'est très sapide, ça a beaucoup de goût et ça parfume effectivement un bouillon ou un risotto.
Absolument,
très bonne idée. Et croûte de fromage.
Ouais, je fais des crumbles
là aussi.
Ouais, je fais des
Normandie.
Des crumbles de fromage. Bon, alors, moi je prends tous les fromages impossibles et imaginables, vous les mettez à sécher avec justement du vieux pain. Et ensuite, vous broyez ça et vous avez un crumble. Alors, je le parfume après, bien sûr, avec quelques épices, du poivre, encore une fois. Et ça, sur des salades, c'est top.
Déborah ?
À nouveau un livre, 1, 2, 3 vies, recette zéro gaspille chez Glénat.
Elle a rapporté sa librairie.
Complètement. Ouais. Qui conseille en fait de faire des huiles aromatisées. C'est-à-dire que vous mettez tout simplement des huiles avec des zestes, des épices, des assaisonnements, les morceaux de fromage, les croûtes, et ça vous permet ensuite de récupérer des huiles aromatisées fromage qui peuvent aider sur des salades.
Chloé Charles fronce les sourcils, elle est un peu sceptique.
Non, mais parce que moi je fais des huiles de verre de poireau, des huiles
demain,
de queue de persil, mais j'avais pas pensé à l'huile de fromage.
Racontez-nous, bonne idée Déborah, merci beaucoup. Racontez-nous justement ces huiles aromatisées avec des fans ou des queues d'herbes aromatiques. Il y a quelques semaines, nos auditeurs ont craqué pour une des recettes que vous nous aviez présentées comme ça, un petit peu à la volée dans un événement auquel on participait tous les deux. Et vous aviez présenté cette recette qui a beaucoup de succès, d'huile de poireau, ou plutôt de verre de poireau, dont vous faites ensuite une mayonnaise qui, du coup, a la couleur verte et qui est assez étonnante visuellement.
Absolument, en fait c'est tout simplement des verres de poireau que j'émince grossièrement, c'est plus pour aider le mixeur à les mixer, et je les mixe ensuite avec de l'huile. Donc j'égoutte du coup la masse du verre de poireau.
Puisqu'il reste beaucoup de fibres après le mixage.
Puisqu'il reste quand même beaucoup de fibres. Et avec cette huile, je monte une mayonnaise.
Oui.
Et du coup, ça me permet de faire des œufs mimosa, par exemple. Sachant que là, je parle de verre de poireau, mais ça peut être des tiges de persil, des tiges d'aneth, de toutes les tiges d'herbes aromatiques qui ont vraiment beaucoup de goût. Même un mix éventuellement d'herbes.
Génial. Et voilà. Sachant que le verre de poireau, on se retrouve avec un goût d'oignon assez piquant, c'est quelque chose de tout à fait étonnant.
Et on n'est pas obligé de monter des mayonnaises, après ça peut aussi être juste pour assaisonner des salades, dans la salade de pommes de terre par exemple, c'est super bon.
Le jaune et le blanc, ce sont les deux couleurs sur lesquelles se penche Déborah Dupont.
France Inter, on va déguster.
Débo.
Je pense que tout le monde ici, que ce soit sur le plateau ou nos auditeurs, se sont déjà retrouvés avec soit une recette qui n'utilisait que des jaunes d'œufs, soit une recette qui n'utilisait que des blancs d'œufs. Et c'est vrai que c'est la galère. La plupart des personnes se posent même pas la question de les conserver, jettent ce qu'ils n'utilisent pas.
Le blanc dans l'évier, ou oui, bien sûr.
Voilà. Donc qu'on soit bien clair, déjà, vous pouvez les conserver. C'est-à-dire qu'un jaune ne va pas se garder très très longtemps, mais si vous le mettez avec un peu d'eau par-dessus, vous le gardez quand même à peu près 24 heures, 48. Et puis c'est surtout que Elvira et Nadine Redzepi nous ont donné plein d'astuces pour confire les jaunes sur les émissions précédentes en mettant soit de la sauce soja, soit du sel.
Ah ouais, génial.
Donc pareil, sur le site internet, vous trouvez énormément de recettes pour confire les jaunes. Les blancs, on a l'habitude de les faire en meringue, de les faire dans des financiers, des choses comme ça. Ça peut se garder jusqu'à 3 semaines en fait au frigidaire dans une petite boîte hermétique, à condition bien évidemment de les utiliser ensuite dans une recette cuite. Il est hors de question de faire une mousse au chocolat avec des blancs qui ont 3 semaines.
Oui.
Et
bien
là,
sûr.
Je vous propose une recette qui m'a amusée. Donc le livre en fait propose des recettes soit avec que du jaune, soit avec que du blanc, et c'est classé par nombre de jaunes ou de blancs qui vous restent.
C'est quand même une super idée. Hein.
C'est-à-dire, il vous reste un blanc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Il vous reste 6 blancs, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Et vous avez toutes les étapes intermédiaires. Idem pour le jaune en fait. Mm-hmm. Et donc là, j'ai choisi des blancs, et avec 2 blancs, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire des fortune cookies.
Et
on les savez, ces petits
attention,
gâteaux.
Je peux tester leur pouvoir
le
croustillant.
Oui, alors attention, il y a un petit mot à l'intérieur.
Oui,
faut l'ouvrir. Ah oui, en effet.
Vous nous avez mis des mots doux.
Je vous ai mis des petites citations culinaires.
C'est cassant, voire casse-dents, mais c'est très bon.
Donc en fait, c'est sur le principe d'une tuile. C'est-à-dire que vous mélangez 60 g de farine T55 avec 60 g de sucre glace, 50 g de beurre que vous avez fait fondre, 2 blancs d'œufs battus légèrement en neige. Vous étalez vos petites tuiles. Alors, il faut vraiment les faire cuire très peu. Enfin, c'est par 2 ou 3, puisqu'ensuite, on les manipule chaudes. Alors, pour le pliage, j'avoue, j'ai fait des vidéos parce que le pliage est assez compliqué. J'avais rien compris au début. Je me suis retrouvée avec des fortune cookies qui ne ressemblaient à rien, si ce n'est à une partie de l'anatomie féminine. Ce qui était un petit peu compliqué sur le plateau de l'émission.
Oui, okay.
Et ensuite, j'ai compris dans quel sens il fallait les plier. Donc, j'ai fait des vidéos que vous trouverez sur les réseaux sociaux.
Non, carrément.
Pour montrer vraiment dans quel sens ça se plie.
Parce que rappelons quand même que le fortune cookie, c'est ce petit gâteau qu'on nous distribue parfois dans les restaurants chinois. Il y a un petit message, porte-bonheur au milieu. Moi, j'aime bien le message. La cuisine, c'est quand les choses ont le goût de ce qu'elles sont. Citation célèbre de Kurnonsky.
Et
absolument.
Oui.
Et le fortune cookie est délicieux. Vous avez des messages ou pas ?
Normalement, tout le monde a son petit message.
La cuisine simple, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Joël Robuchon.
Très bien. Toi et Charles ?
Pour bien cuisiner, il faut de bons ingrédients, un palais, du cœur et des amis. Pierre Perret.
Moi, j'ai Philippe Bouvard qui a dit « Le propre de la nouvelle cuisine est de vider le portefeuille sans remplir l'estomac.
Ouais, » c'est un peu Paul Bocuse disait « Rien exactement. Dans l'assiette, tout sur l'addition. » Absolument, exactement. La nouvelle cuisine, qu'est-ce qu'elle a été brocardée.
Ouais. Mais c'est vrai que donc sur le pliage, en fait, c'est tout bête, vous avez votre tuile qui est arrondie, vous glissez le petit papier sur lequel vous avez mis un petit mot doux ou quoi que ce soit, vous pliez en deux et ensuite avec la demi-lune, vous la pliez. Donc il y a un sens de pliage qui fonctionne, c'est par le segment le plus long, en fait, vous pliez dans ce sens-là. Et vous ramenez les 2 pointes sur l'arrière. Et là, ça vous permet d'obtenir cette forme caractéristique.
Fortune cookie, merci. Vous dites oui ou vous dites non à ce livre ?
Je dis oui parce
que
franchement...
Vous encouragez à sa lecture ?
Oui, j'encourage parce que y a des idées auxquelles on ne pense pas. Et franchement, j'ai trouvé ça très très bien fait. Donc le jaune et le blanc, le livre de cuisine anti-gaspillage aux éditions La Martinière. Et il vaut 19,90 €.
Et merci beaucoup Déborah Dupont. Le jaune et le blanc, en ce qui concerne nos invités, vous avez le choix. Soit plein de jaune, soit plein de blanc. Quelques idées là comme ça, Chloé Charles, ou pas ?
Alors moi, avec le jaune, je fais des crèmes de jaune d'œuf. Ouais. C'est-à-dire que je les cuis autour de à peu près 80 degrés. Après, je les utilise presque à l'apéro tellement c'est bon. J'adore le jaune d'œuf.
Non, mais attendez, comment vous faites ? Il n'y a que des jaunes.
J'ai que des jaunes. Ouais. J'ai que des jaunes, donc du coup, après moi j'ai un Thermomix et j'ai même des...
Vous êtes une professionnelle de la profession.
Donc voilà. Mais en gros, je les cuis entre à peu près à 70 degrés, 70-80 degrés.
Donc ça coagule pas.
Donc ça coagule pas et en fait ça crée une espèce de mousse onctueuse et après on met une épice dedans et ça fait un dip.
Salé.
salé.
Il faut que, pour que ça coagule pas et que ça ne fiche pas, il faut que ça continue à être un peu tiède. Et là, on peut tremper des choses dedans.
Exactement. En fait, c'est un peu la texture du jaune d'œuf de l'œuf parfait.
Mmh. Voilà, génial. Mmh. Bah, on peut tremper les mouillettes de Michel Brasse, par exemple.
Exactement, voilà. Dedans.
Parfait. Joanne Thiriot, une petite idée comme ça, jaune ou blanc,
à vous de choisir. Également avec le jaune, pour continuer, je dirais un sabayon. On fait fumer le jaune, c'est-à-dire qu'on le passe dans un fumoir pour qu'il prenne des notes aromatiques assez puissantes. Ensuite, également, dans un robot cuiseur, on le monte avec un tout petit peu d'eau. Et on rajoute un peu de beurre clarifié, on met ça en siphon et on a en fait un espuma fumé qui est très, très intéressant.
Ouh, magnifique. On finit avec quelques petits trucs. Il y a une espèce de purée. Alors là, c'est des fans, certainement du navet.
Alors, c'est des fans, j'en ai pas parlé tout à l'heure. En fait, j'avais les tiges de betterave, du coup j'avais aussi les feuilles de betterave. Et j'en ai fait une purée, je les ai blanchies assez longtemps, oui. pendant 8 minutes, bien refroidies dans de l'eau froide, mixées assez fortement avec juste un tout petit peu d'huile d'olive. Ça me fait une purée là qui est nature mais qui est facilement aromatisable.
On va goûter ça, merci, on arrive au terme de cette émission, c'était le mot de la fin. Chloé Charles, on suit vos aventures, bravo pour votre travail et vos différentes missions. Joanne Thiriot, le 1912 à Trouville, très sincèrement, voilà un chef engagé qui en plus a l'équilibre, le sens des cuissons et des assaisonnements. Vous faites une très très belle cuisine gastronomique locale, éco-responsable et économe, bravo à vous. La semaine prochaine, on cultive, on cueille, on écosse, je vous le disais, et on cuisine aussi le petit pois avec Xavier Mathias et la cuisinière Laura Portelli, Arnaud Daguet, Antoine Gerbel dans les fauteuils des chroniqueurs. À dimanche prochain si vous avez encore faim.